Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. En début d'émission, on revient sur le cas de Jake Seven avec Maître Sophie Mongeon qui nous explique un peu comment ça fonctionne, toutes les procédures devant la LNH et d'autres genres de procédures qu'on voit avec d'autres organisations, d'autres sports. Où est-ce qu'on pourrait améliorer tout ce qui est LNH? Et évidemment, on parle des poursuites civiles dans ce genre de dossier. Il y a les pensionnats autochtones. On revient sur ce sujet avec Maître Jean-Paul Boily. Il nous explique un peu l'histoire de tout ça, de ces pensionnats-là qui ont fait tellement de mal. Il y a Québec qui réserve 25,8 millions pour lutter contre la violence conjugale chez les Autochtones. Donc, on traite de cette réalité autochtone avec la violence conjugale, dont on sait que c'est un fléau. Il y a déjà beaucoup d'argent d'investi, mais là, on cible vraiment cette partie-là. Également, on revient avec Éric Yakov de Boise sur l'histoire d'Alexandre Bissonnette, tout ce qui est évidemment les peines cumulatives. Et c'est quand même, c'est unique, pas dans le bon sens, terriblement unique, cet attentat-là. Il nous en parle. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Pour ceux qui suivent la série canadien avec les Jets, celle avant aussi contre Toronto. Bon, évidemment, on est des partisans, on veut de l'émotion. Par contre, là, on a vu ce qui s'est passé cette semaine avec Jack Evans qui se fait plaquer par Mark Shilfey. Et là, tout qu'un plaquage, on se dit, c'est quoi ça? Est-ce que c'est du hockey? On sent une intention de faire mal et non jouer la rondelle comme à l'habitude. Et ça a frappé, là. On a eu peur pour Jack Evans. Ça semble bien aller. Mais ça nous pose beaucoup de questions quand ça arrive. On a vu Tabarès avec les livres de Toronto qui s'est fait accrocher par Perry. On a eu peur pour sa santé aussi, mais on voyait clairement que c'était un accident. Maintenant, là, on n'est pas sûr. On va voir ce que la Ligue nationale va faire. Et ça nous rappelle d'autres situations où est-ce que, par exemple, le cas McSorley qui avait donné un coup de bâton à Brescher, George Brescher. Et là, c'est dur de dire que tu veux pas faire mal quand t'es rendu avec ton bâton comme une hache. Ben, lui, il avait été accusé au criminel. Et par contre, il y a toutes des règles. Hein. On sait, si on est dans la Ligue nationale, on accepte certaines choses parce qu'on a le salaire qui vient avec. Est-ce qu'on accepte, par contre, quelqu'un qui veut nous faire du mal? Ben, c'est peut-être là la ligne, parce qu'on accepte certainement qu'il y ait des accidents. Et si on joue au hockey puis que c'est pas supposé être de contact, s'il y a des contacts, ben on accepte peut-être pas la même chose. Donc où sont ces lignes-là? Où est la ligne pour des accusations criminelles? Où est la ligne pour des poursuites aux civils qui peuvent coûter cher si la personne est blessée? Ben on en parle avec Maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Maître Mongeon, vous connaissez bien le sport, le droit du sport, parce que c'est un domaine. Et quand je parle d'accepter, c'est un principe, ça. Quand on fait un sport, à quelque part, on va accepter une partie du risque, là.
Ben oui, on est prêt à accepter une partie du risque, mais il y a déjà eu un jugement où un juge à la Cour supérieure est venu dire, en partant, une patinoire de hockey n'est pas une zone de non-droit. Donc, effectivement, même s'il y a des actions qui sont causées, qui sont faites dans l'arène, si vous me permettez l'expression, ça ne veut pas dire que c'est exemple de sanctions qui pourraient être soit au niveau réglementaire, pénal ou même civil, là.
C'est ça, pénal, criminel ou même civil. Et ces règles-là, bon, prenons, on va commencer avec le cas de Jake Evans puis Mark Shelfield qui devrait être sanctionné par la Ligue nationale. Comment ça marche, dans le fond? C'est réglementaire dans ce cas-là, là?
Ben oui, effectivement, là, pas mal tout est codifié dans une convention collective, évidemment, entre l'Association des joueurs de la Ligue nationale et la Ligue nationale. Donc, effectivement, ce qu'on sait, c'est que il y a eu un appel téléphonique pour discuter de l'événement qui a eu lieu. On sait, selon la convention collective, que quand, dont les articles 18.8 puis 18.9, que quand c'est un téléphone, la sanction va être de 5 jours et moins. Mais s'il y avait eu audience, donc à ce moment-là, ça aurait été 6 jours et plus. Donc, par le fait que ça a été un téléphone le lendemain de l'événement, on savait tout de suite que c'était pour être 5 jours et moins. C'est tout codifié dans les règles.
OK, par téléphone. Mais est-ce que la pandémie aurait pu changer quelque chose, qu'on veuille être par téléphone, mais qu'on veuille la considérer comme une présence? Parce que là, on s'entend que c'est plus difficile à convoquer une audience.
Ben, l'audience aurait quand même eu lieu par visioconférence.
OK, par visio. Et non par téléphone, là.
Exact. Fait que c'était clair, c'était par téléphone, donc on sait la sanction qui en est suivie.
Parfait. OK, on comprend bien. Ça, c'est le réglementaire. Et là, évidemment, on veut comprendre le domaine, comment ça fonctionne. On spécule, on parle. Dans ce cas-ci, Jake Evans semble correct, on espère, qu'il va revenir au jeu. Par contre, si quelqu'un commet ce genre de délit-là et intentionnellement blesse un autre joueur, comment ça fonctionne? Peut y avoir des poursuites civiles, des accusations criminelles?
Oui, effectivement. Là, ça nous ramène au cas Bertuzzi et Moore. C'est un gros événement qui a eu lieu en février 2004, où à ce moment-là, où dans cette région-là, en 2004, où Bertuzzi avait frappé Moore, qui était tombé sur la glace, qui avait une fracture au niveau des vertèbres du cou et qui avait été vraiment malmené. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, ce qui était quand même clair dans ce cas-là, c'est que Bertuzzi, tout le long du match, on voit qu'il court après Moore. Donc, c'est prémédité. Mm-hmm. C'est pas dans le feu de l'action, si on fait une analogie avec le dossier de Evans.
Jake Evans et Chelsea, ouais.
Oui, je pense qu'il y a une grosse différence. Puis dans ce contexte-là, Bertuzzi, lui, avait été vraiment suspendu pour 20 matchs. Mm-hmm. L'année d'après, c'était le lockout et il avait été empêché même de travailler à l'extérieur là, de l'Amérique du Nord.
Ah oui.
Il est seulement réintégré quasiment un an plus tard, là, en août 2005. Et lui, il avait été accusé au criminel de voies de fait causant des lésions corporelles. Il y avait eu 80 heures de travail communautaire, puis il y avait eu un an de probation dans lequel là, c'était clair qu'il ne pouvait pas être en contact du tout, là, les critères habituels là, avec Steve Moore.
Mm-hmm. Donc, c'est vraiment cette intention-là, c'est là la ligne, c'est dire, puis c'est ce qui est difficile. Hein. Si on prend le cas de Brescher, puis McSorley, ben il a donné carrément un coup de bâton, c'est assez évident qu'il voulait y faire mal, mais c'est ça, dans le cas de Sheffield, c'est on peut interpréter ça, est-ce que vraiment il voulait, ou sinon c'est un plaquage qui pensait pas être aussi sévère. J'imagine, là, il y a beaucoup plus de place à l'interprétation, là.
Ben oui, fait que donc au niveau criminel, on le sait, il faut démontrer la mens rea, il n'y avait pas l'intention. Mm-hmm. Donc, selon moi, c'est clair qu'il n'y aura pas de
poursuite criminelle d'accusation. Oui, c'est ça.
Exact. Mm-hmm. Ouais. Mais au niveau de la responsabilité civile, vous savez, on n'a pas besoin de déclarer coupable au niveau criminel pour faire une poursuite au civil. Mais là encore, quand je fais l'analogie avec le cas de Bertuzzi, là on se rend compte que Moore avait jamais repatiné depuis et il avait entamé une poursuite de 60 millions contre Bertuzzi et les Canucks. Il y a eu un règlement en cours, fait qu'on ne sait pas comment vraiment ça s'est terminé.
Ouais, ben c'est que ça coûte cher parce que ces gens-là, si vraiment il y a une faute et on a blessé quand on ne devait pas blesser, la personne ne rejoue pas. On fait la preuve, il y a des contrats de millions, là, donc ça se fait quand même bien comme poursuite. On est quand même à dire qu'il y a eu un dommage, une perte de plusieurs millions parce qu'il ne peut plus jouer, là.
Ben, effectivement, là, dans le cas de Evans, on comprend que possiblement c'est un traumatisme crânien qui a été classifié comme léger. Mm-hmm. Pour le moment. On ne sait jamais. Des fois, les commotions cérébrales, les séquelles arrivent beaucoup plus tard. On s'en rend compte. En plus, on disait que c'était pas sa première commotion cérébrale et ça fait une différence, ça s'additionne là. Mm-hmm. Mais en principe, moi, ce que je constate, c'est que probablement le dommage n'est pas assez grand pour qu'il y ait une poursuite en responsabilité civile, là. Contrairement à notre cas de Bertuzzi, par exemple.
Ben oui, puis c'est ce qu'on souhaite. On souhaite pas être capable de poursuivre, parce que ça implique, dans le cas de McSorry et Brichet également, poursuite civile, je sais plus pour combien de millions, mais ça s'est réglé également hors cours pour ce qui... Il y a eu des condamnations criminelles, mais il y a eu des règlements hors cours. On ne connaît pas ces montants-là. Mais tu sais, il y a toute une dynamique hein, sur les commotions cérébrales, la violence dans les sports. Il y a eu... avec la NFL, la Ligue nationale, les actions collectives. J'entendais Michel Bergeron, je trouvais ça bon aussi. Il disait, ben, puis vous en parliez, là, des règlements, bon, 5 matchs de suspension. Mais Michel Bergeron disait, il faut que ça soit plus sévère. On attend qu'il y ait des gens paralysés, qu'ils soient gravement blessés. Parce que le joueur, bon, on s'en tire bien si c'est 5 matchs de suspension. Mais lui, ce qu'il voudrait, c'est que ça soit en partant à 20 et que ça soit connu, là. Tu fais ça, t'es out pour 20 matchs. Donc, est-ce qu'on devrait renforcer tout ça?
Ben oui, les conventions, la convention collective, selon moi, devrait être modifiée. Mais ce qui est particulier de la Ligue nationale, c'est qu'ils sont juges et jurys. C'est-à-dire qu'ils font des règlements ou des punitions, mais à l'interne. Mmh. Alors que d'autres organisations sportives vont, par exemple, faire affaire avec le tribunal arbitral du sport, l'athlétisme, etc. Donc, c'est des juges indépendants qui sont pas impliqués dans les organisations. Alors ici, c'est un peu particulier, là. Donc, ça serait intéressant de peut-être sortir lorsqu'il y a des litiges à un tribunal indépendant, là.
Ouais, je comprends. Donc, c'est quoi le tribunal le tribunal du sport, là? C'est vraiment un tribunal qui va traiter ce genre de litige-là, là, avec des fédérations?
Oui. Exact. Ça a été mis sur pied par le comité olympique il y a plusieurs années dans le but de légiférer puis discuter de cas qui pouvaient être problématiques, surtout au niveau du dopage. Mm-hmm. Beaucoup aussi par rapport à avoir la possibilité en tant que transgenre de compétitionner dans des compétitions féminines. Toutes sortes de débats comme ça. Puis c'est un tribunal qui est mandaté avec des personnes indépendantes qui sont nommées, puis qui sont des vrais juges, puis vont traiter un paquet de sujets vraiment intéressants. Mm-hmm. Puis c'est en plus, il y a même un autre tribunal d'appel qui s'appelle le tribunal fédéral suisse qui, lui, va même chapeauter les décisions du tribunal arbitral du sport. Fait que c'est un vrai processus juridique comme nous, nos tribunaux administratifs.
Oui. Bien, c'est intéressant parce que soumettre à ça, bon, on pourrait penser à des sanctions plus sévères, mais évidemment, la Ligue nationale, je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir ça parce que en tout cas, je pense qu'ils se font beaucoup reprocher de des fois, et ça s'est beaucoup amélioré aussi, mais peut-être pas d'être assez sévère. Est-ce que l'exemple est donné? Mais, Maître Mongeon, je retiens ce que vous avez dit d'entrée de jeu avec votre chronique. La patinoire n'est pas un lieu de non-droit. Donc, c'est important que les athlètes sachent, et il y a des exemples, que ce qu'ils vont commettre comme action peuvent avoir des répercussions très graves. Et en tout cas, j'espère que dans ces cas-là, l'exemple est donné parce que n'attendons pas là, qu'il y ait des blessés graves. Heureusement, deux fois de suite, ouf, on sent que ça se passe bien pour ces joueurs-là. Mais moi, quand je vois le coup tomber, quand je vois quelqu'un tomber comme une poupée de chiffon sur la glace, je me dis... Il faut être chanceux pour ne pas se blesser gravement le cou ou quelque chose comme ça. Là.
Donc, on n'est pas à l'abri. Hein? Ouais. Vous savez, il y a un cas de midget 2A où un jeune est devenu tétraplégique suite à une mise en échec à l'arrière et l'autre jeune a été poursuivi pour 8 millions de dollars. Et ouais. Le jeune a eu gain de cause.
Il y a eu gain de cause. Puis même en droit civil au Québec, c'était des gros montants parce que ce jeune-là perd tout son avenir de travail, pas nécessairement sur le hockey. Mais on va attendre qu'il y ait ces drames-là encore dans la Ligue nationale parce que là, 5 matchs de suspension, on s'entend que je suis pas sûr que ça donne tant l'exemple. Mais en tout cas, c'est ainsi qu'on est fait. Là. On attend souvent des drames pour réagir. Mais merci beaucoup, Sophie Mongeon, de nous avoir expliqué tout ça.
Et merci.
Bonne journée. Bye-bye.
Bye.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
215 paires de chaussures pour dénoncer l'horreur des pensionnats autochtones. Cette semaine, on a vu notre premier ministre s'excuser. Ces fameux pensionnats-là, où l'horreur semblait se produire, ont toujours surpris que ça s'est passé sur au Canada, sur notre territoire. Pour mieux comprendre tout ça, on en parle avec Maître Jean-Pierre Boily qui est là. Bonjour.
Oui, Jean-Paul, toujours.
J'ai dit Jean-Pierre. Bon, Jean-Paul. Bon.
Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, c'est l'horreur là, de découvrir ça. Puis je pense que c'est probablement et malheureusement que la pointe de l'iceberg. Parce que on sait qu'il y en a eu beaucoup de pensionnats. Puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'était comme ça. Faut comprendre, là. Et puis là.
Mais avant de parler des pensionnats, là. Pourquoi, là, on découvre, on parle de 215 enfants, pourquoi on a découvert...
On a découvert ça parce qu'ils ont des nouvelles technologies maintenant qui permettent de voir, il y avait une espèce de cimetière dans ce coin-là, ils sont allés un petit peu plus loin, puis là, ils ont découvert un charnier, et ils ont pu identifier les ossements de 215 enfants.
Donc, c'est des enfants qui ont été tués,
oui,
là?
Non, bien, qui ont été tués, façon de parler, est-ce qu'ils sont morts de famine, sont morts de maladie, sont morts de toutes sortes de choses, on peut présupposer plein d'affaires. Mais on va comprendre un petit peu l'historique de tout ça, puis je vais essayer de vous le faire pour vous faire comprendre quelle était la mentalité de ces pensionnats-là, pourquoi ils ont été faits, en vertu de quoi ils ont été faits, parce qu'on est des juristes, hein, on essaie de savoir, mais voyons, c'était-tu légal? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu des pensionnaires où on parle en Colombie-Britannique, il y en a eu partout, il y en avait une douzaine au Québec, aussi, jusqu'en 1996. Le dernier qui a fermé, c'était à Roberval, en 1996, dans le nord, ici, près du lac Saint-Jean. Et il y en a eu en Ontario aussi. Cette semaine, on a dit qu'on effectuerait des recherches dans les secteurs, il y a une université... qui porte le nom d'un nom autochtone connu au nord de Sarnia, je pense, en Ontario. Et on a dit que c'était un ancien site de pensionnats autochtones dont on va faire des recherches, des fouilles avec les technologies que je ne connais pas, mais qu'on utilise aujourd'hui. Et là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment on a fait pour en arriver à mettre des enfants et à les déraciner de leur famille. Légalement, y avait-tu le droit de faire ça? Ben, je suis allé fouiller. Je suis un féru d'un peu d'histoire. J'aime bien ça. Et je suis allé voir la première loi sur les Indiens qu'on appelait, qui a été adoptée en...
Mais qu'on appelle
1800.
Encore.
Oui, tout à fait.
Elle n'a pas changé de nom.
C'est ça. C'était la loi en 1869 sur l'émancipation graduelle. Et en 1976, en 1876, c'est devenu la loi sur les Indiens. Et là, ce qui est intéressant, j'ai lu le commentaire du ministre, on l'appelait ça le ministre de l'Intérieur à ce moment-là. C'est probablement qu'il y en avait un pour l'extérieur, faisait tellement froid qu'il ne pouvait pas parler. Mais celui de l'Intérieur, lui, il avait dit ceci dans son rapport pour adopter la loi. Puis écoutez-moi bien, là, c'est écrit qu'il faut revenir là, 150 ans en arrière, mais quand même, on voit la façon dont les gens percevaient les Autochtones à l'époque. Et on dit « Notre législation indienne repose sur le principe que les Autochtones doivent rester dans un statut de tutelle et être traités comme des pupilles ou enfants de l'État. » Imaginez, on prenait les Autochtones pour des enfants, donc on les considère pas comme des gens qui peuvent avoir un degré de discernement, être capable de prendre des décisions. Puis là, on dit plus loin, l'intérêt des Autochtones, comme celui de l'État, requiert que tous les efforts soient faits pour aider l'homme rouge, hein, les Autochtones, c'était les peaux rouges qu'on appelait à l'époque, à sortir de sa condition de tutelle et de dépendance. Et il est clairement de notre savoir, parlant du bon politicien de l'époque, et de notre devoir, le devoir de le préparer par l'éducation et tout autre moyen, à un plus haut degré de civilisation en l'encourageant à assumer les privilèges et les responsabilités d'une citoyenneté entière. Hey, voulez-vous un chocolat au lait avec ça? C'est quelque chose d'absolument abominable, on dirait ça aujourd'hui.
Ben, on travaillait à l'assimilation pure de vouloir enlever toute leur culture pour qu'ils soient... comme nous autres.
Carrément assimiler un peuple, carrément faire en sorte que, on a même dit dans une autre loi qui était adoptée en 1885, on disait, on interdisait des cérémonies traditionnelles autochtones, c'était interdit, puis même l'obligation d'obtenir une autorisation pour porter des costumes en 1914. On adoptait ces lois-là réellement, c'était des députés de chez nous, des Canadiens français, Canadiens anglais qui décidaient Eux autres, ce qu'ils vivent, c'est pas correct. Nous, ce qu'on vit, c'est correct. On va vous assimiler. Lorsqu'aujourd'hui, on voit... là.
Mais ça, ça date de... Parce qu'on sait que dans l'endroit, je pense qu'on a appelé ça la conquête. Donc,
oui.
Les Autochtones n'avaient plus de droits parce qu'ils avaient été conquis.
Oui, tout à fait.
Et on parle aussi, au départ, en Europe, en Amérique, d'un des plus grands génocides qu'il y a eu.
Tout à fait. Il y en a eu aussi en Amérique centrale. Mais ce qu'il faut comprendre, Christophe Colomb, qui n'était pas un saint non plus, là, on sait qu'il est arrivé ici pour découvrir l'Amérique, mais il est descendu après ça en quelque part près d'Haïti, la République dominicaine, puis il a décidé de raser tout le monde. Mais là, on parle de 600-700 ans en arrière.
Ouais.
Maintenant, là, ce statut-là les gens qui étaient sous les réserves, écoutez, le droit de vote pour les Autochtones, on les appelait les Indiens à l'époque, là, ils ont eu droit de vote juste en 1960. Avant ça, il n'y avait pas de droit de vote. Il n'y avait pas de droit de citer au Canada. Il y avait droit d'être sur des réserves. Puis là, écoutez, là, je ne vous ferai pas toute la nomenclature de dire, oui, t'étais considéré comme un Indien, un Autochtone, donc tu ne payais pas de taxes. Mais si la femme autochtone se mariait, par exemple, avec un Blanc, elle perdait tous ses droits. Il y avait des affaires qui n'avaient aucun bon sens, mais c'était le temps. C'était la mentalité de l'époque. Et on assumait qu'on avait raison. Un peu comme aujourd'hui, on assume qu'on peut avoir raison, par exemple, je donne un exemple, là, la charte de la langue française, etc., on dit, garde, priorité aux francophones. Mais à l'époque, cette priorité à la race blanche et aux us et coutumes qui étaient anglophones ou francophones, mais blancs à ce moment-là, c'était comme dans les us et coutumes de l'époque, on trouvait ça normal. Comme on trouve normal aujourd'hui que les immigrants arrivent ici puis parlent français. Mais c'est pas nécessairement ce qui arrive. Alors là, ce qui est important de comprendre, c'est que là, lorsqu'on le voit... On comprend que ces enfants-là qui ont été arrachés carrément de leur famille, c'était légal. On pouvait le faire, même si c'est complètement aberrant de penser ça aujourd'hui. Imaginez des jeunes enfants qui partaient de leur famille, qui comprenaient pas ce qui se passait. Il y avait 5-6 ans. Ils se faisaient mettre dans ces pensionnats-là qui étaient carrément...
Mais en se justifiant que cet enfant-là allait grandir dans une société qui est mieux. Là.
Ouais, qui va avoir des nouvelles règles, des nouvelles valeurs, qui va avoir... Écoutez, je veux pas dire... C'était pas des bonnes règles, c'était pas des bonnes valeurs, mais c'était complètement idiot, carrément.
Mais on en sait-tu plus sur ces ossements-là?
Ben,
je veux dire, des enfants, c'est fait pour grandir. Là. C'est comme pas normal qu'il y en ait
autant qu'ils soient morts dans des fosses communes.
Dans
des fosses communes, alors qu'on ne leur fait pas de sépulture. Est-ce qu'on avisait les familles? On ne sait pas, on va peut-être l'apprendre. Il y en a eu des commissions. Là, il y a eu la commission sur la réconciliation qui a été ici au Québec. Là, depuis plusieurs années, on dit qu'on veut réparer, on parle de réparation et réconciliation, mais vous savez, le droit ne peut pas toujours réparer les choses. Le droit évolue avec les mentalités. Le droit évolue, vous le savez, avec les époques, les politiques, etc., et les mentalités.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut, par exemple, par une loi, venir réparer ce qui s'est fait antérieurement? La réponse est non. Parce que, oui, on peut essayer de dédommager, mais comment dédommager une famille qui a perdu un enfant, qui ça va faire, plus de 100 ans, d'autres 50 ans? C'est pas évident, là. On sait, on a
parce que parlé. De... Jusqu'à maintenant, là, on sait que le gouvernement, le premier ministre, reconnaît l'horreur des pensionnats.
D'ailleurs.
Il y a eu des excuses, c'est pas les premières, là.
Non. Il y en a eu.
Ouais, c'est reconnu. Mais ces indemnisations-là, y a-tu des montants qui ont été donnés à des communautés?
Non, pas pour ce qu'on vient de découvrir cette semaine. Ce qu'on a eu cette semaine, souvenez-vous, le drapeau du Québec a été mis en berne, les drapeaux canadiens ont été mis en berne sur tous les édifices gouvernementaux du fédéral pendant 2 jours ou 3 jours. Non, ça, c'est une reconnaissance qui est là, mais ce que les peuples autochtones disent, vous savez, on parlait de la conquête, moi, je l'ai dit, j'ai travaillé dans certains dossiers pour certaines bandes autochtones à l'époque, et puis il y a plusieurs bandes autochtones, ils n'ont pas perdu la guerre, ils ont signé des traités qui n'ont pas été respectés par la suite, puis on les a oubliés. Alors, c'est pour ça qu'on fait des revendications maintenant, les Premières Nations font des revendications, parce qu'ils disent « Hey, un instant, on a un papier ici qu'on a signé en 1700 quelque. »
Dans le fond, tout à l'heure, je disais, c'est le principe de la conquête en droit, c'est pas ça avec les Autochtones.
Non, pas tout tous les peuples. Il y en a certains qui ont été conquis, mais d'autres, ils ont signé
pour
des
traités. Pour nos auditeurs, c'est à cause qu'en droit international, il y a un principe, la conquête. Si on l'a vu avec les Anglais, lorsqu'ils ont instauré le droit
ici, en 1760.
Au Québec, où est-ce qu'il y a eu conquête, maintenant, c'est notre droit, nos règles qui s'appliquent. Les Autochtones, certains ont été conquis, en quelque sorte.
Ouais. Et d'autres ont signé des traités.
Et d'autres, des traités, mais certains traités n'ont pas été respectés.
Ils n'ont jamais été respectés. Ils ont été enterrés en quelque part avec, avec une pelle, puis avec une, même pas de sépulture, puis on a jeté ça aux poubelles. Or, on a pu retracer certaines traces, et puis là, aujourd'hui, ben, ces revendications-là se font. Maintenant, ça, c'est une chose. Mais à l'époque, de traiter des gens comme des gens, même pas de deuxième ordre, c'était non, on peut, votre culture, c'est pas bon, vos traditions, c'est pas bon, vous avez pas le droit de porter vos costumes. Écoutez, là, c'est je veux pas revenir à l'Allemagne nazie, là, mais c'est de décider qu'est-ce qui est bon. Est-ce que la race aryenne est supérieure aux Juifs? Et puis la réponse est oui, on tue tous les Juifs. C'est aussi, pas peut-être aussi grave que ça, mais en quelque part, c'était une mentalité de l'époque qui disait, regardez, c'est nous autres qui avons raison, vous autres, vous allez
mais
vous
ça suivre. Fait peur, parce que ce que je comprends, tout ça est encadré de lois.
Par les lois, exactement. Par
et
des
ça fait réfléchir, des fois, je me dis, qu'est-ce qui est encadré par la loi en 2021 et que dans...
Il n'y a pas d'allure.
Dans 100 ans, on va dire, ça n'avait pas de sens.
Ben, ça peut arriver.
Parce que ça dépend, non, des fois, on est imprégné par une forme de mentalité qui ne nous fait pas sortir de
on sort
la
pas
boîte,
de
là.
C'est ça, puis on pense qu'on a raison. Puis, vous savez, les politiciens, souvent, j'en ai plusieurs qui m'ont dit, on fait ce qu'on pense de mieux dans une situation donnée. Mais des fois, ça arrive qu'on se trompe. Ben, dans ce cas-là, je pense qu'ils l'ont échappé pour à peu près. Puis, ça a donné ces résultats malheureux-là qui font qu'aujourd'hui, ben là, on va retrouver, il n'est pas impossible qu'on va retrouver d'autres charniers ailleurs parce qu'il y en a eu certainement de la maltraitance un peu partout parce que ces jeunes-là arrivaient là sans défense. Il y a eu de l'abus en plus. Il y a eu toutes sortes de cochonneries qu'on veut même pas y penser, mais il faut s'en souvenir parce que faudrait plus jamais que ça se reproduise.
Non, quelle horreur. Merci, Matt Boily.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
On savait qu'il y avait 223 millions qui étaient donnés pour lutter contre la violence conjugale. Mais cette semaine, on en apprend plus. Il y en a à peu près 26 millions qui sont vraiment réservés pour ce qui est de la violence conjugale, mais pour les Autochtones. Il semble qu'il y ait une réalité plus grave, plus problématique avec laquelle il faut gérer tout ça. Et bon, on sait, en fin de semaine à l'émission, on traite beaucoup de la situation autochtone. On a vu avec les charniers qu'on a découverts. On sait qu'il y a toute une problématique et à quelque part, il est temps de faire face à certains problèmes. Et maintenant, en matière de violence conjugale, on sait que c'est un fléau et on veut lutter et spécifiquement avec les Autochtones. Et on en parle avec Maître Sharon Otis. Bonjour.
Oui, bon matin, Maître Bernier.
Bon matin. Donc, qu'en est-il là ici là? C'est quoi? Bon, on va partir de la base là. C'est quoi la réalité autochtone en matière de violence conjugale?
Ben, selon ce qui a été mentionné par Madame Isabelle Charret, qui est la ministre responsable de la condition féminine, on a tenté le tout, ok? Et il apparaît que le fait et c'est des multiples facteurs. Entre autres, l'augmentation, il y a plus de pauvreté, il y a un faible taux de scolarité, des logements surpeuplés, l'isolement géographique. On parle aussi également de consommation de jus d'alcool et de drogue qui est au-delà des normes. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment percuté, c'est la transmission intergénérationnelle de la violence. Donc, et l'Institut national de la santé publique a sorti des chiffres. Et pour vous donner une idée, au niveau de 2021, et bien évidemment, l'année n'est pas finie, mais sur 11 féminicides, il y a deux femmes autochtones qui ont perdu la vie. Donc, en raison de tout ça, parce que je pense que la réalité des femmes autochtones, et quand je parle autochtones, je fais référence bien évidemment à la loi Coxonnet de 1982 qui dit trois catégories de personnes autochtones, c'est-à-dire les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Donc, ils ont fait un sondage et ils ont vu que, bien évidemment, ils sont surreprésentés. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation par rapport aux personnes qui ne sont pas autochtones. Il y a une surreprésentation au niveau de la violence conjugale. Et à mon sens, à moi, ils ont bien fait d'intervenir et d'injecter de l'argent pour leur venir en aide parce que faut d'une part considérer l'isolement géographique, les ressources qui sont, à mon sens, à moi, peut-être pas disponibles, vous comprenez, à proximité, n'ont pas les mêmes possibilités de consulter, etc. Donc, je suis contente qu'ils aient injecté autant d'argent pour, mais on verra qu'est-ce qui en ressortira. Mais à tout le moins, on a sorti trois projets qui, somme toute, sont très intéressants.
Ben, c'est ça. À quoi ça sert concrètement? Allez-y, on peut le comprendre dans ces projets-là.
Mais grosso modo, il y a un 10 millions tout de suite là qui part pour le développement des ressources d'hébergement pour les victimes de violences conjugales au Nunavik. Ça veut dire qu'il y aura 4 installations qui offriront des services aux femmes de la région, soit une maison d'hébergement d'urgence. Il y aura également 2 maisons de la famille qui offriront un certain soutien selon la valeur des Inuits et une maison, c'est-à-dire de seconde étape. C'est pour les femmes qui sont rendues plus loin, c'est-à-dire qui ont déjà quitté la situation de violence conjugale et qui ont déjà cheminé là-dedans. Donc, il y a ce premier projet-là. Le deuxième, il y a un 6 millions qui est injecté.
Mais le premier, Maître Otis, le premier, oui? C'est une réalité qui ressemble à ici, parce qu'ici, on a vécu des problèmes aussi pour l'hébergement de ces femmes-là, parce que le but, c'est de les sortir de leur milieu. Et avec la réalité autochtone, est-ce que trop rapidement, elles retournent dans ce milieu-là?
Selon les recherches et mon investigation, je ne peux pas me prononcer. Tout, ce qui ressort, Maître Bernier, c'est l'isolement géographique. Vous comprenez? L'accessibilité à ces services-là, parce que ici, les femmes qui sont victimes de violences, qu'elles soient autochtones ou pas, ont beaucoup plus de facilité d'avoir accès à ces centres d'hébergement-là. Mais sauf qu'en matière autochtone, il ne faut pas oublier qu'ils sont isolés. Donc, ça fait toute la différence.
Il n'y avait pas un réseau à développer. L'argent va à développer ce genre de réseau-là parce qu'évidemment, si on vit de la violence conjugale puis on n'est pas capable de sortir, donc si on n'a pas d'hébergement, c'est un cercle vicieux qu'on peut comprendre, là, qui est encore plus grave lorsque il y a isolement géographique. OK, on comprend bien ça. L'autre projet, c'est quoi?
Entre autres, il y a un 10 millions, grosso modo, selon des chiffres comptes, qui vont aller, entre autres, aux 22 corps policiers autochtones. Donc, ça va faire en sorte que ça va aller directement au sein du corps policier pour affecter des ressources qui vont être ciblées et là, directement pour la violence conjugale. Et ce sera, quand on parle de ressources, on parle de ressources partagées. C'est-à-dire que les policiers autochtones auront également, eux aussi, un appui, tant au niveau juridique que la gestion du projet, l'accompagnement sur le terrain, le service communautaire. Donc, et tout ça a été mis en branle, bien évidemment, parce que les communautés ont été, bien évidemment, sollicitées pour se ressortir quelles étaient les priorités, les mesures et les actions qui devraient être mises en place à court terme. Et les représentants locaux devront, de chacune des communautés, devront déterminer les paramètres. C'est-à-dire, bon, où est-ce qu'on implante, par exemple, quelle maison? Pour les corps policiers, c'est très clair, mais somme toute, ils vont pouvoir coller à la réalité locale, parce que c'est là où est-ce que nous, je pense qu'on n'est pas conscient de leur problématique, de l'isolement. Donc, ça, c'est le deuxième, je voudrais même que c'est le troisième projet, parce que le deuxième, c'était bel et bien là de réserver là les services à proximité pour qu'il y ait un service de guérison. Et ça, tant pour les hommes que pour les femmes autochtones qui vivent de la violence conjugale, ainsi que je voudrais même qu'ils étendent le service à l'entourage. Donc, les proches, les enfants, etc., seront également là épaulés.
Mm-hmm. Et mais c'est les policiers avec plus de budget, c'est pour financer des meilleures méthodes d'intervention ou
des meilleurs services, parce que je pense que quand on est en matière de violence conjugale et surtout en matière autochtone, les peuples autochtones ont des réalités ou des cultures différentes, des façons de voir les choses différemment de nous. Et je pense que c'est pour beaucoup plus les épauler sur le terrain et pouvoir intervenir adéquatement.
Mm-hmm. OK, je comprends. Et la violence conjugale, bon, vous savez, vous en parlez à l'occasion. Par contre, il y a toujours ce problème. Oui, mettre de l'argent, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que il y a toujours le problème récurrent de difficulté à intervenir en prévention, à réussir à arrêter quelqu'un qui est violent avant qu'il commette vraiment un crime, là. Est-ce qu'on regarde cette optique-là de prévention avec tous ces investissements-là?
Mais je pense que en ce qui a trait du budget qui a été attribué au corps policier, je pense que c'est dans une optique aussi de prévention, c'est-à-dire d'avoir les ressources efficaces et de pouvoir intervenir. Mmh. Donc, mais à savoir, est-ce que les sommes sont suffisantes, la question est là au complet. Est-ce que ça sera suffisant? Parce que ces personnes-là ne vivent pas la même réalité, au risque d'être redondante, mais ce n'est pas la même réalité. Et je vous dirais que même au niveau de l'INSPQ, c'est-à-dire l'Institution nationale de la santé publique, juste au niveau des chiffres qui sont avancés, plus de 52% des Autochtones victimes de violences conjugales sont victimes de violences conjugales comparativement à 23% des victimes qui sont non-autochtones. Donc, vous voyez que quand je vous parlais tout à l'heure de surreprésentation, c'est ce que je vous dis. Donc, définitivement, il y a une problématique. Il y a une problématique qui est plus grave, d'une gravité, et qu'on doit, je pense, arriver avec des solutions rapides. Et je pense que c'est, entre autres, ce que la ministre, Mme Isabelle Charest, a essayé de faire.
Effectivement. La première chose pour régler un problème, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Donc, je pense que c'est une bonne avenue de comprendre qu'une réalité autochtone en matière de violence conjugale qui est différente de celle qui est très grave aussi qu'on assiste ici, comme un peu on voit déjà, on a déjà parlé dans le code criminel, où est-ce que on tient compte de cette réalité autochtone pour intervenir d'une manière, parce que c'est des milieux qui peuvent être très difficiles, puis comme vous l'avez bien dit, de des fois avec la mentalité, pas arriver avec nos gros sabots, puis tout vouloir changer, et ça, c'est des fois, ça fait des désastres. On fait le parallèle avec les pensionnats là, dont on a parlé à l'émission cette fin de semaine, là. Mais effectivement, on comprend bien ce que vous dites, d'ajuster le tir.
Oui, et je pense que le fait que ce soit vraiment les communautés et les responsables locaux qui sont collés, qui connaissent leur vraie réalité, qui soient mis de l'avant pour mettre en œuvre ces projets-là, je pense que c'est la meilleure des solutions.
Effectivement. C'est bienvenu. On est content de voir ça pour combattre ce fléau. On le dit toujours. Merci beaucoup, Mme Sharon Otis.
Ça fait plaisir. Passez une bonne journée.
Bonne journée. Bye-bye.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Le dossier d'Alexandre Bissonnette, pour ceux qui ont suivi tout ça. On s'est reconnu coupable de meurtre premier degré. 6 personnes, 6 tentatives de meurtre, un crime odieux, on le sait. Maintenant, il y a tout qu'un débat lié à un débat de société, on va le dire, lié à cette cause-là, à savoir, bon, quelqu'un qui commet ce genre de crime avec plusieurs morts, est-ce qu'on peut cumuler la période d'admissibilité, dans le fond, à la libération conditionnelle? On sait que la loi de base impose 25 ans minimum. C'est la prison à vie, par contre. Il y a une commission de libération conditionnelle qui est là pour dire, bien, est-ce que la personne est réhabilitée ou pas? Dans le dossier Bissonnette, on sait qu'on dit, est-ce qu'on règle ça au départ? Est-ce qu'on lui donne 50 ans, 150 ans avant de pouvoir avoir la liberté conditionnelle? Et là, la Cour d'appel est intervenue, a dit non. C'est cet article-là qui avait été instauré par le gouvernement Harper qui permet de cumuler comme ça était inconstitutionnel. Le jugement de première instance qui dit qu'on cumule 25 plus un autre période qui donnait à peu près 40 ans et qu'on réparait l'article, on dit non, c'est pas au juge de faire ça, c'est au législateur, c'est au gouvernement de refaire un article si c'est une volonté de cumuler ces peines-là. Mais il en reste pas moins que le crime est odieux. On l'a pas dit directement, mais on sait qu'il y a une saveur raciste qui on a attaqué une mosquée. Là, c'est particulier. Et tout ça, il faut se rappeler aussi que la Cour suprême a accepté cet appel-là parce qu'au Canada, c'est même pas homogène. Au Québec, en ce moment, l'article est inconstitutionnel, mais pour ce qui est du Canada, dont l'Ontario, il y a des gens qui ont été condamnés à 75 ans de prison minimum. Donc, il va falloir que ça soit uniformisé parce qu'on sait que les jugements de l'Ontario n'ont pas de force ici. Il n'y a pas de stare decisis. Donc, c'est pour ça qu'on a accepté de traiter ça. Est-ce que c'est constitutionnel? Mais c'est quand même ce crime-là, c'est historique ce qui se passe et on espère avoir des réponses. On en parle avec Éric Jacob Debroise, qui est spécialiste de la criminalité et de la justice, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Maître Bernier. Ça va?
Ça va bien. Merci d'être là. Donc, j'ai mis la table un peu sur ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Mais pour vous, là, c'est un dossier qui a un caractère vraiment particulier, là.
Oui, ben, tout à fait. Outre les mathématiques constitutionnelles et judiciaires dans lesquelles on baigne, parce qu'effectivement, il y a un problème en fait de chiffres et personne n'arrive à s'entendre, il n'en demeure pas moins que l'attentat de la mosquée de Québec, ça va faire plus de 4 ans, cet attentat qui s'est déroulé. Et si vous me permettez, Maître Bernier, je vais faire un petit retour dans le passé, pour qu'ensuite on puisse débattre de l'aspect constitutionnel ou non de l'article 745.51 qui est du cumul des peines. Alexandre Bissonnette, le 29 janvier 2017, donc il est étudiant à l'Université Laval, et là, le soir, on entend à la radio que il y a une tuerie de masse au Centre culturel islamique de Québec, ce qui aboutit, vous l'avez dit tout à l'heure, 6 victimes, 8 blessés. On en parle un peu moins, mais il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire que il y a quand même 17 orphelins derrière, 39 personnes quand même en sortent indemnes de cette attaque, mais ça aurait pu être beaucoup plus meurtrier. Le soir même, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que Alexandre Bissonnette est pris de remords, il appelle la police, se dénonce et se remet finalement aux forces de l'ordre. Ce qu'il faut bien noter dans cet attentat à la mosquée de Québec, c'est à mon sens et à ma connaissance le premier attentat islamophobe dans le monde occidental avec des victimes. Parce que des crimes haineux, il y en a toujours eu, et malheureusement, il y en a toujours eu envers les minorités, mais à l'encontre d'une mosquée, qu'il y ait eu un crime haineux qui aboutisse à des morts, à mon sens, c'était la première fois. Et par la suite, Alexandre Bissonnette, ça a inspiré d'autres personnes. Souvenez-vous, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, ça a fait 51 victimes et 49 blessés. Et il avait la personne qui avait commis ce crime, cet attentat, avait clairement dit qu'elle avait été inspirée par Alexandre Bissonnette.
Ah oui, c'est vraiment marquant. C'est la première fois qu'on attaque un lieu de culte là, en Occident. Là.
Un lieu de culte avec l'aboutissement ensuite avec des morts, avec des victimes. Mm-hmm. Parce que des crimes, que ça soit des insultes, des tags, des débris aussi, ça, il y en avait, il y en a toujours eu, et malheureusement, il y en aura encore, mais que ça soit un attentat vraiment avec des actes criminels qui aboutissent à des morts, c'est, à mon sens, c'était la première fois, et ça a donné, ça a inspiré ensuite d'autres personnes à faire la même chose. Vous savez, c'est un peu comme le suicide. Quand il y a une personne qui se suicide dans un environnement, il faut faire très rapidement attention aux autres personnes de cet environnement parce que ça peut en inspirer d'autres. Ben, c'est pareil pour les attentats, ça a le même effet néfaste, ça peut inspirer d'autres personnes. Néanmoins, la société québécoise, il faut le dire, c'est une société qui est résiliente. Rapidement, elle a pris en main le problème. Dès le lendemain de l'attentat, près de 10 000 personnes s'étaient rassemblées pour soutenir les victimes, pour montrer aussi leur désapprobation. Et puis par la suite, il y a eu une commémoration nationale au Québec et au Canada, avec la présence quand même de multiples politiciens. Et suite à l'attentat, donc rapidement, une peine a été prononcée contre Alexandre Bissonnette. C'était le juge François Huot, qui a imposé une peine minimale de 40 ans de détention pour Alexandre Bissonnette. Mmh. Ça, c'était en février 2019. Et en novembre 2019, bien la Cour d'appel du Québec révise ce jugement, non pas pour porter un jugement sur l'odieux crime, mais pour poser un jugement sur l'article 745.51 du Code criminel, qui permet en fait le cumul des peines, ce qu'on appelle les peines consécutives à travers le pays. Et c'est là qu'on s'interroge sur les peines consécutives, parce que le juge François Huot, à l'époque, avait le choix de faire un cumul des peines. Il y a 6 victimes. Donc, il avait le choix de faire 6 fois 25, ça aurait donné 150 ans. Mais ça ne fait pas de sens dans le code criminel canadien de donner une peine à une personne de 150 ans.
Mmh. Hey, au Canada, aux États-Unis, c'est une autre chose.
Ah oui, ouais. C'est autre chose. La peine minimale, ça aurait été 25 ans. Mais le juge François Huot, il s'est bien rendu compte que là, il y avait quand même un odieux qui avait été commis, qui était une première aussi dans l'ensemble du Canada, concernant cet attentat. Donc, il ne pouvait pas mettre 25. Donc, le juge François Huot s'est retrouvé dans la position de réécrire, en quelque sorte, lui-même, la loi, ou de la réinterpréter pour faire 40 ans. Mmh. Et c'est là que ça pose problématique, puisque il a empiété sur le domaine du législateur.
Ouais.
Et donc, la Cour d'appel a rediminué cette peine à 25 ans. Donc, il y a le passage à la Cour suprême.
Maintenant, Cour suprême, mais ce qu'on veut, dans tout ce débat-là, c'est d'essayer de bonifier ou de sembler plus sévère que la prison à vie. Je pense que dans la tête des gens, le chiffre 25 ans, et pour eux, quelqu'un qui a la prison à vie va faire 25 ans, il ne fera pas plus. C'est ça le problème là, de la perception de la société. Là.
On a en fait, en réalité, on a un très gros problème en Occident, c'est qu'on a des crimes qui sont relativement nouveaux, dont on ne connaissait pas trop auparavant, les attentats. Et cumulé à cela, il y a des peines que nous n'appliquons plus. C'est-à-dire que les peines de mort, très peu on en applique en Occident. Je crois que le dernier pays qui en applique en Occident, c'est les États-Unis. Mmh. Donc on se retrouve avec une inadéquation entre des crimes nouveaux et des peines dont on n'arrive pas à équilibrer la sévérité. Et on rend bien compte que les peines de prison, en tout cas pour la société, ne semble pas suffisante, ni la prison à vie. mais on ne veut pas non plus aller vers des peines capitales. Alors, on essaye de jongler avec la possibilité, justement, de faire un cumul des peines qui serait comme une forme symbolique de dire que c'est une peine capitale pour la personne, c'est-à-dire que au-delà de son de la prison à vie, ben en fait il n'y a aucune possibilité de réhabilitation de cette personne dans la société avant un certain seuil d'années passées.
Mais ça va à l'encontre de tous les assises, les bases du système canadien qui sont de réhabiliter les gens qui ont
tout à fait
des crimes. Mais comment on étiquette l'horreur? C'est ce qu'on veut faire ici. On veut...
C'est compliqué.
Ouais.
Très compliqué parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, dans le système canadien, ça va à l'encontre des valeurs du système canadien de réhabilitation, justement, si on applique des peines de 100, 150 ans. Mmh. C'est un principe qu'on retrouve dans toutes les justices européennes qui provient en fait de la culture chrétienne, qui permet que la faute, on puisse s'en repentir. Et donc, effectivement, comment on étiquette l'horreur? Bah, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais c'est l'argument qui va être utilisé par la défense à la Cour suprême, c'est que on doit permettre la réhabilitation d'une personne dans notre système, dans notre société, et surtout, ils vont utiliser cet argument pour dire que ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés canadienne.
Mm-hmm. On sait déjà, honnêtement, ce dossier-là, on en parle, on en reparle, mais quelle est la solution, on ne le sait pas, mais c'est certain qu'il y a de bonnes chances que la position de la Cour d'appel qui dit que l'article est donc inconstitutionnel soit maintenue par la Cour suprême. Là, ça, c'est mon humble opinion, mais évidemment, on reverrait ça. Je comprends le principe, là, on veut démontrer que ce genre de crime-là est plus grave qu'un autre crime qui est aussi grave, parce que tuer, enlever la vie, c'est le pire crime. Mais c'est assez complexe. Et moi, je vous dis, on va finir là-dessus, mais je crois qu'une des solutions est sur faire comprendre au public c'est quoi la Commission des libérations conditionnelles du Canada, c'est quoi son rôle, et mettre l'emphase à savoir qu'on soit certain, mais certain, ce que en ce moment la croyance populaire pense pas conclure, que cette commission fait son travail et qu'il n'y a pas personne qui n'est pas réhabilité qui va sortir. Et je pense que c'est là que le bas blesse dans tout ce dossier. Merci beaucoup, Éric Jacob de Brasse. Là, c'était tout le temps qu'on avait, mais très éclairant.
Merci beaucoup, Maître Bernier.
Bonne journée, bye-bye.
Bonne journée, au revoir.
Cube Radio.